Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous jusqu'à midi, c'est le samedi, le dimanche. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux et notamment en podcast. Sachez qu'on a parlé de l'Olympique de Marseille, on a parlé du 15 de France, on a parlé de Kylian Mbappé qui n'est pas en bleu. Bref, vous pouvez tranquillement cet après-midi réécouter tout ça en podcast, toujours avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss et Philippe Saint-André. 11h45, c'est votre moment, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour, eh bien vous venez lui dire en face un seul mot d'ordre. Vous composez le 32-16. Et puis sur RMC, depuis hier, c'est du jamais vu. Vous pouvez remporter 100 000 euros net d'impôts. Vous pouvez préparer votre voyage de rêve, emmener votre famille en vacances, ce que vous voulez, faire des travaux, vous acheter une nouvelle voiture. Bref, 100 000 euros.
Acheter une voile pour le Vendée, par exemple.
Exactement, ça coûte un peu cher quand même. Mais 100 000 euros, eh bien, c'est ce qu'on vous offre sur RMC. Restez bien à l'écoute de notre antenne. Allez, on débute cette nouvelle heure avec un proverbe japonais. C'est pour vous, cher rugbyman, il y a France-Japon ce soir. Mais on ne va pas du tout parler de rugby. Proverbe japonais qui dit « Lorsque l'eau monte, bah, le bateau aussi ».
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Si le Vendée Globe n'était qu'une partie de plaisir, à force, ça se saurait. Et si le Vendée Globe n'était qu'un enfer, ça se saurait aussi. Les marins n'iraient pas. Simplement, entre l'aventure à risque et la course de bateau, se glisse de temps à autre la souffrance, le drame et l'héroïsme.
Jean est en vie, mais prisonnier à l'intérieur de son bateau.
Pour moi, le principal danger, c'est le froid et l'hypothermie.
Lors de la deuxième édition du Vendée Globe en 1989, Philippe Poupon a déclenché deux balises de détresse. Son bateau est couché sur l'eau.
Et c'est la bonne nouvelle de la nuit sur le Vendée Globe. Kevin Escoffier a été retrouvé vivant.
1992, Bertrand Debroc va faire de la couture sur sa langue déchirée par une blessure.
En rentrant dans une vague, au lieu que le bateau ressorte normalement, l'étrave au niveau du mât s'est pliée à 90 degrés. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a toute la section du bateau où l'eau rentre avec la vitesse.
1996, Raphaël Dinelli est à bord d'un bateau qui a pris l'eau. Lors de cette édition du Vendée Globe, le Canadien Jerry Rouve disparaît dans des conditions dantesques. On trouvera son bateau. Jamais la mer ne rendra son corps.
Ça y est, c'est parti. L'aventure, les océans. 70 jours pour les plus rapides. Peut-être beaucoup plus pour d'autres. Mais on dit le Vendée Globe pour le gagner. Il faut déjà le terminer.
Tiens bon, la vague, tiens bon.
La 10e édition du Vendée Globe s'élancera demain des Sables d'Olonne. C'est l'événement, c'est toujours un moment extrêmement fort pour la plus célèbre des courses à la voile autour du monde. On rappelle les contraintes, en solitaire, sans escale, sans assistance. 40 skippers tenteront leur chance cette année. Une course incroyablement difficile, dangereuse, où les abandons sont légion. 40% en moyenne par Vendée Globe depuis la première édition en 1989. Une course rythmée par les exploits des marins, mais aussi par les chavirages, les sauvetages. Alors la musique qui fout les jetons. Et cette question. Le Vendée Globe tient-il sur le sportif ou sur les dramas? Christophe Cessieux.
Il tient sur les deux.
Les deux.
Mmh.
Fred Weiss.
Drama.
Philippe Saint-André.
Sa légende sur le drama, oui.
Denis Charvet.
Pardon, j'ai appris qu'on pourrait répondre les deux maintenant.
Il fait comme toi.
C'est sûr.
Le
drama, moi.
Je fais drama. Ce que je veux. Ok, avant de débattre. Et vous allez débattre parce que vous avez des choses à nous dire. On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux au Sable d'Olonne, c'est Pierre-Yves Leroux. Salut, Pile.
Salut, JC. Bonjour à tous. Bienvenue dans le cockpit du bateau de Sébastien.
Oh là là là.
Et justement, Sébastien Simon sera notre invité.
J'espère qu'il a mis sa bouée, parce que sur l'eau, Pierre-Yves, c'est quand même pas terrible.
Non, mais on est au ponton, là. Il n'y a pas de souci.
Ah, t'es au ponton.
Alors, Pile, oui, le Vendée Globe, c'est une course. Et dans la légende de ce tour du monde, il y a les grandes histoires de naufrages.
Oui, certes, on a retenu les noms des 8 marins qui ont remporté le Vendée depuis sa création. Quoique je suis pas sûr que tout le monde se souvienne bien de Christophe Auguin, par exemple, vainqueur de la deuxième édition. Ouais. En revanche, dès 89, les images tournées par Loïc Perron, qui retrouve Philippe Poupon à cheval sur son bateau couché sur le flanc, sont vraiment entrées dans la légende. Qui n'a pas en mémoire le souvenir de Bertrand Debroc, l'homme qui s'est recousu seul la langue avec son miroir de poche et une aiguille, ou encore Yves Parlier, qui en 2000 s'était retrouvé obligé de manger des algues pour préserver son stock de nourriture après un dématage. Et puis, lors de la dernière édition, c'est vrai que le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam a peut-être plus marqué finalement que la course, avec ce final un peu chaotique, un vainqueur qui passe la ligne en deuxième position. Le CAM, sauvé in extremis par Vincent Rioux 12 ans plus tôt lors d'un sauvetage également mémorable au large du Cap Horn. Et puis personnellement, moi j'ai encore du mal à chaque fois que je repense à Yann Eliès, seul, allongé dans son bateau, le tout bassin cassé et le fémur fracturé à 1000 km de l'Australie le 18 décembre 2008. Et vous voyez, c'est un petit peu mon métier, donc j'ai pas oublié moi le nom de Christophe Auguin, mais en revanche, j'ai pas oublié non plus à 10 mètres d'ici là sur le ponton au départ de cette course, il y avait Jerry Rouve, j'étais à côté de lui. Il y a quelqu'un qui lui a dit, de toute façon, on se retrouve pour manger au retour. Et ce repas n'aura jamais lieu. Et ça, ça m'a toujours marqué. Je m'en souviendrai toute ma vie.
Pierre-Yves Leroux, tu restes avec nous en direct des Sables d'Olonne. Alors sachez les GG que vous êtes écoutés, car nous avons avec nous, juste à côté de pile, Franck Camas, notre consultant, et donc Sébastien Simon, skipper de l'IMOCA, groupe Dubreuil. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci
bonjour
d'être avec nous. Alors, vous allez comprendre très rapidement le principe des GG. On a un débat, on a une question, les GG vont débattre. Mais évidemment, dans quelques instants, vous allez peut-être ou non vous nourrir ou peut-être ou non vous engueuler avec les personnes ici présentes dans le studio RMC. Je compte sur vous. Notre question, est-ce que le Vendée Globe tient sur le sportif ou les dramas? Christophe, t'es celui qui maîtrise le mieux dans le studio RMC ce Vendée Globe, toi qui l'as couvert à de nombreuses reprises. Tu n'arrives pas à dissocier les deux. C'est impossible.
Non, je veux dire, au début, lorsque le Vendée n'était pas ce qu'il est devenu, c'est-à-dire aujourd'hui la course océanique de tu arrêtes de parler pendant que je parle, toi.
Ah, tu m'as entendu là.
Bien sûr que je t'ai entendu. Tu parles trop fort.
Non, mais il est fou ce type.
La course donc de référence, elle a eu besoin. Elle s'est nourrie de ces drames, de ces aventures, de ce côté Everest des mers, hein, quand on voyait ces skippers perdus au fin fond de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique, et ça a nourri l'histoire et ça continue de nourrir l'histoire. Mais je pense qu'il y a qu'à aller voir. Je pense que Denis pourrait y aller un jour, Philippe, Fred, il risque de couler le ponton. Mais d'aller voir l'ambiance qui règne sur les pontons des Sables d'Olonne à quelques jours du départ, je crois qu'il y a 400 000 personnes qui vont voir les bateaux et les skippers.
C'est un million.
Plus
d'un million.
Alors, j'étais à 400 000 semaine dernière. Ils en étaient à 400 000.
Ça, c'est la police. C'est selon la police.
C'est Jean-Philippe à peu près.
T'es déjà allé?
Mais je savais un million. Je savais qu'il y avait un million.
Non, mais t'es déjà allé au Sable d'Olonne?
Oui,
tu vas qu'au Cap Ferré. Tu vas jamais plus haut que Cap Ferré. Les Sables d'Olonne, c'est pas assez chiant.
Arrêtez vos private
jokes. Ce soir aussi, la France, chapeau.
Donc, moi, je me rappelle de courses incroyables. Le retour de Michdej qui part avec 40 heures de retard, qui revient.
Oui, mais toi tu connais les autres. Voilà, exactement. Toi tu connais parfaitement. Donc c'est normal que tu sois du sportif comme des drames. Nous, moi qui suis un peu, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les skippers, pour toutes ces aventures humaines, parce que c'est des trucs de fou. Je suis très admiratif.
Mais c'est ça qu'on aime, les aventures humaines.
En même temps,
vous aimez le goût du sang. Il y a que le sang qui vous intéresse.
Moi, j'ai que des images de malheureusement.
De sauvetage.
Oui, de sauvetage. Je suis désolé, Perron, je m'en souviens très très bien. Le CAM, il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Mais il y en a eu plein.
Mais surtout quand tu t'inquiètes. En fait, c'est comme une saga. Tu t'inquiètes pour quelqu'un, tu vas le sauver.
Ah bah
c'est solidarité.
C'est un film.
On a envie de voir des gens se sauver. Cette solidarité qui existe. Moi, je trouve ça magnifique. Mais le résultat.
Et puis, beaucoup de happy end, hein, il faut bien dire. Malheureusement, il y a eu des drames et il y a eu trois morts sur le Vendée Globe, mais il y a eu beaucoup d'happy end.
Je pense qu'on ne se rend pas compte de la difficulté et du courage et de la dimension du sportif.
Mais c'est pas quantifiable.
Je trouve que ça réduit de l'extérieur. Il m'a vraiment, c'est mon avis. Hein. Juste la performance extraordinaire du skipper qui gagne le Vendée Globe.
Denis, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas quantifiable. Moi, je me rends pas compte ce que ça fait de faire de la voile. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Par contre, je sais que un mec qui dévide sa route pour aller aider quelqu'un d'autre, ça me passionne. Sauver un mec, moi, ça me passionne plus que des résultats. Et en plus, la dernière fois que ça s'est passé, c'est pas le premier qui a gagné, c'est le deuxième qui a gagné. Parce que justement,
Le deuxième avait dévié sa route, c'est Gabin, mais en tout cas c'est pas le premier, donc Bestaven.
Sur la fin on comprend pas bien. J'adore le départ parce que les bateaux sont magnifiques, on va avoir une ambiance incroyable et effectivement, et j'adore cette solidarité qui se crée entre les skippers.
Moi j'entends en tout cas des skippers qui vous écoutent et on va les faire intervenir dans quelques instants. Franck Camas et Sébastien Simon qui rigolent parce que il y a du Gabin, il y a du Bestaven. Oui, on sait pas trop. En tout cas, on sait que Escoffier avait chaviré évidemment et qu'il y a beaucoup de marins et notamment notamment Sébastien Simon qui était venu justement pour le récupérer, et donc Verstappen qui s'était imposé avec un règlement un peu particulier parce que évidemment
oui, parce qu'il avait perdu du temps pour aller sauver Escoffier, donc on lui a décompté ce temps-là.
C'est pas illogique, mais c'est bizarre.
Philippe Saint-André, puis après on va écouter évidemment Franck Camas et Sébastien Simon, et puis je sais que tu as d'autres anecdotes à nous raconter, Christophe. Philippe.
Non, mais c'est sûr que c'est des grands champions, c'est des gladiateurs, mais tu te souviens plus des dramas que du vainqueur. Et c'est aussi la beauté aussi de cette compétition. Par contre, il faut avoir des coronesses qui aiment de partir tout seul et faire le tour du monde. Mais tu te souviens souvent, voilà, des drames, de ce qui se passe, des histoires humaines. Et après, où je suis d'accord avec toi, je trouve c'est fantastique. Les mecs, ils sont seconds, ils peuvent gagner, ils vont sauver quelqu'un, ils dévient leur. Et ça, c'est une solidarité. Et nous, dans le rugby, on aime la solidarité. Donc, on a un gros, gros respect pour ces skippers.
Vous aimez bien aller chercher un verre à bord pour le copain.
Oh, ouais. Oui, oui, oh. Ça, c'est les rugbyman, hein. Faut s'y habituer. Hein. Je sais pas si, d'ailleurs, on sait pas s'ils ont une charte.
Je la voyais venir, celle-là. Je la voyais venir.
Les skippers ont-ils une charte? Ça, on sait pas, hein, évidemment. Les troisième mi-temps.
Les skippers en troisième mi-temps, moi, j'en ai connu. Je peux t'assurer. C'est des solides, les rugbyman.
C'est des solides. Ils sont bien dans l'esprit.
Ils sont bien dans l'esprit. Sur le bateau, au moins, ils rationnent la nourriture. Parfois, ils sont obligés de manger des algues.
Les départs de la route du dans les bars, Intramuros à Saint-Malo.
Et là-dessus, je voulais penser
j'avais
à Laurent,
ramassé mon Pierre-Yves Leroux était, dans un drôle d'état quand même.
À Laurent Bourgnon qui était un ami proche et qui était un sacré mec. Voilà.
Franck Camas, notre prestigieux consultant, évidemment, vous le connaissez parfaitement, ce navigateur. Franck Camas est notre consultant RMC pour ce Vendée Globe. Franck, comment tu arrives à répondre à cette question? Est-ce que le Vendée Globe tient plus sur le sportif ou les dramas? C'est quoi ton avis?
Moi, je pense les deux. Hein. Je suis assez d'accord, mais en tant que skipper, on aimerait que ça soit sur le sportif, évidemment. Le drama, ça fait partie de la course. On sait qu'en dehors des 18 mètres du bateau, c'est la mort et que le risque est partout. Donc, c'est aussi l'intérêt de cette course. C'est pour ça que c'est une aventure. C'est qu'un risque humain est beaucoup plus important que si on rentre sur un match de rugby, même si au rugby ça peut être dangereux, ou un match de foot. Donc on ne sait pas comment on va finir l'épreuve et on y pense en permanence, ça crée du stress, mais ça crée des histoires. Et effectivement, on se souvient de plein d'images de solidarité. La solidarité, je pense que c'est dans notre ADN, et on sait que la seule personne qui pourrait nous venir en aide à partir d'une certaine latitude autour de l'Antarctique, c'est un autre concurrent. Et on se pose jamais la question, donc c'est naturel d'y aller. Et la vie humaine avant le résultat, évidemment. Donc voilà. Mais voilà, j'espère qu'on n'aura pas de drame malgré tout ce que je viens de dire. Et même si c'est pas pour la légende du Vendée Globe, j'espère qu'il n'y aura pas de drame et que le vainqueur sera le premier à l'arrivée.
Il y a eu une course sans drame justement. Sans
chavirage,
sans problème.
Ouais, je pense. François Gabart, quand il gagne en 2014.
2012.
Ah oui, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose aussi.
Dans toutes les éditions, il s'est passé des choses.
Ouais, c'est vrai. En fait, il y a eu tout le temps quelque chose. Mais bon, on retient quand même les vainqueurs. On parle de.
Oui, mais par exemple, sur l'année l'édition 96-97 à laquelle Pierre-Yves faisait allusion tout à l'heure, c'est Philippe Auguin qui s'impose, mais effectivement, son nom, c'est dommage,
Christophe,
mais a été mis derrière les sauvetages de Dinelli, de Bullimore, le décès de Jerry Roof. C'est ceux dont les gens se souviennent. Et pourtant, Philippe Auguin était allé chercher une victoire incroyable.
Et aujourd'hui, pour tous les néophytes, Escoffier, ça parle. Alors qu'Escoffier, il n'a pas remporté le Vendée Globe, mais on se souvient.
Tu crois qu'on se souvient plus d'Escoffier que de Verstappen?
Ah, je pense, oui.
Ah, ben oui.
Jean Le Cam, mais c'est vrai.
Alors, pour les non-initiés comme nous, oui.
Franck Camas et Sébastien Simon sont avec nous. Je suis très heureux de vous avoir dans cette émission dans les grandes gueules du sport. En plus, avec les rugbyman, vous avez un sacré point commun, hein, la route du Rhum. Les
tu ne pouvais pas t'empêcher, là.
C'est l'arrivée de la route du Rhum.
Sébastien Simon, skipper de l'IMOCA, groupe Dubreuil, tu vas participer à ton deuxième Vendée Globe. Malheureusement, ça avait été un abandon pour le dernier Vendée Globe et pour ta première édition. Et puis, tu avais participé, je le disais, aussi à ce sauvetage d'Escoffier. Comment tu arrives à toi qui es partie prenante, toi qui vas participer à cette course, comment tu arrives à répondre à cette question sur le sportif et évidemment tous ces sauvetages et cette aventure extraordinaire?
Ouais, effectivement, je pense qu'auprès du grand public, c'est plutôt les drames qu'on se souvient, ce qui est un peu dommage. C'est ce qui fait aussi la beauté du Vendée Globe, toute cette solidarité, cet esprit d'aventure. Mais effectivement, en tant que marin, comme le dit Franck, moi, je préférerais qu'on se souvienne plutôt du côté sportif, de toutes ces belles émotions qu'on peut vivre, ces belles victoires, ces beaux scénarios de course. Maintenant, voilà, ça fait partie du jeu, c'est une aventure. Enfin, quand on prend le départ, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Les bateaux deviennent de plus en plus violents en plus, donc voilà, c'est sûr qu'il va se passer encore beaucoup de choses passionnantes pendant ce Vendée Globe, j'en suis sûr, et j'espère aussi qu'on se souviendra du vainqueur qui le méritera amplement. Et
Sébastien, il est bien placé pour le savoir, puisque lui, il a eu un grave accident à bord du bateau, avec une commotion cérébrale, un blackout total, voilà, donc c'est une question qui est sensible pour toi, tu sais comment te protéger aussi.
Ouais, c'était pendant la qualification au Vendée Globe, justement, sur ce même bateau, bon, je lui en veux pas, hein, puisque il est encore là, et je suis encore dedans, mais effectivement j'ai eu une commotion cérébrale, je me suis recousu moi-même avec 9 agrafes le front, j'ai eu une fracture des cervicales.
Et comment on a envie de repartir morceaux. Comment on a envie de repartir après ça? Moi, il m'arrive une fois ça, c'est plus jamais de ma vie.
Toi, tu as du basket.
Plus jamais tu rentres dans ta baignoire. C'est vrai, Sébastien, que pour le commun des mortels, se recoudre le crâne avec 9 agrafes, passer tout près, pardonne-moi, mais c'était le cas, un grave traumatisme crânien tout seul sur un bateau, enfin, c'est forcément grave. Comment tu appréhendes ça et comment tu dis, oui, mais je veux repartir?
Bah, ça a été une grande question. Pour moi, je pense que le plus douloureux a été même quand on m'a immobilisé à l'hôpital et qu'on m'a mis un corset pendant 3 mois en m'obligeant à ne plus faire de sport, à ne plus bouger, à dormir avec. Ça a presque été plus douloureux que l'accident en lui-même. Mais voilà, ça reste quand même ma passion, ça reste mon métier, ça reste une course qui me fait rêver. Donc et c'est sûr qu'à la première transat 4 mois plus tard, où certains médecins ne voulaient pas me laisser partir, j'ai eu pour la première fois un sentiment de peur, et parce que en fait tout le monde me disait sois prudent, fais attention, et ça a fait un peu son chemin dans ma tête. J'ai terminé 10e de cette transat et ça m'a pas du tout plu. J'ai dû avoir une discussion avec ma famille, avec mes proches, pour leur dire d'arrêter de me mettre ce genre de message dans le crâne en quelque sorte. Et voilà, c'est quelque chose où on s'est mis d'accord. Ça a été douloureux à verbaliser, mais aujourd'hui j'y vais avec beaucoup de plaisir. La dernière transatlantique, je finis 4e. Je me suis fait plaisir, et je pense que avec mon partenaire qui est aussi très connu dans l'aérien, puisque dans sa famille il y a un champion du monde de voltige, donc ils connaissent la sécurité, et on a mis en place beaucoup de choses dans le bateau, notamment des sièges moulés sur moi comme en Formule 1, montés sur amortisseurs. On a mis voilà, maintenant je porte un casque, ce qu'on faisait pas trop en tant que marin à l'époque, mais les bateaux vont tellement vite, faut s'imaginer que ça devient un automatisme pour moi. Et puis voilà, plein d'autres petites choses qui font que je peux me permettre maintenant de pousser le bateau et en restant tout en sécurité.
Franck, Sébastien,
toi aussi, tu as connu un accident en mer. Heureusement, c'était pas très loin des côtes. C'était en 2015, je crois, lors d'une sortie d'entraînement en baie de Quiberon. Ton pied avait frappé le safran. Ta jambe avait été fracturée, en partie sectionnée. Si ce genre d'accident t'arrive au fin fond de l'océan Indien, l'océan Pacifique, est-ce que tu peux t'en sortir?
Bah, on n'est pas sûr. C'est pour ça que quand on part faire le Vendée Globe, on ne sait pas ce qui va se passer dès le lendemain. C'est ce qui fait la magie, et c'est pour ça aussi on est un peu des masos, mais c'est aussi pour ça qu'on est attiré par ce genre de challenge, et qu'on ne peut pas tout maîtriser avant de partir, même si on essaye de maîtriser le maximum. Donc le risque fait partie de cette passion, comme un alpiniste qui va faire ses exploits au sommet. On sait qu'il peut y rester en montant ou en descendant, donc nous c'est la même chose, et on a envie d'être confronté à ce risque. C'est comme ça qu'on se sent parfois vivant lorsqu'on revient à terre, et que la vie à terre devient d'un coup extrêmement facile à vivre quand on a vécu ce genre d'aventure.
Messieurs, restez avec nous, on est avec Franck Camas, notre consultant, on est avec Sébastien Simon, skipper de l'IMOCA, groupe Dubreuil, et évidemment avec les GG, on continue de parler du Vendée Globe. C'est demain le grand départ de la 10e édition, c'est précis, hein, le Vendée Globe, faut pas être en retard, c'est 13h02, et c'est forcément un énorme moment.
Le problème c'est qu'on sait jamais quand ils arrivent aussi.
Quand est le départ et pas l'arrivée.
Sébastien, on essaiera de faire une petite fourchette quand même, entre 75 et 90 jours.
Pierre va s'installer au Sable d'Olonne pendant 2 mois, tranquille.
J'ai 90 jours, j'ai pas assez de nourriture, donc il va falloir arriver avant quand même.
Ok, il y a une ambition et peut-être un record à aller chercher. On en parle évidemment avec nos envoyés spéciaux sur place et avec vous les GG. Et appelez-nous au 3216 si vous voulez évidemment discuter avec ces grands navigateurs. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss et Philippe Saint-André. Nous avons évidemment parlé d'Mbappé, du 15 de France qui affronte ce soir le Japon, également de l'Olympique de Marseille, de cette cuisante défaite 3-1 hier sur sa pelouse face à la JOCR. Si vous voulez en reparler, si vous n'êtes pas d'accord avec une GG dans une dizaine de minutes, c'est le 32-16. C'est à vous de jouer les auditeurs, vous aussi. Vous êtes des grandes gueules. Mais nous sommes toujours en direct des Sables d'Olonne pour la 10e édition du Vendée Globe qui s'élancera demain à 13h02. Vous allez suivre ça évidemment sur RMC. Nous sommes avec Pierre-Yves Leroux, l'un de nos envoyés spéciaux, avec Franck Hamas, notre consultant. Et puis nous avons la chance d'avoir avec nous Sébastien Simon, skipper de l'IMOCA Groupe Dubreuil, qui va participer à son deuxième Vendée Globe. Ils sont en direct dans cette émission. Christophe, avant de réécouter évidemment nos navigateurs, je voulais que tu reviennes aussi sur cette édition 96. Notre débat, c'est est-ce qu'il faut retenir, et est-ce que vous retenez surtout le sportif ou les dramas. Et c'est vrai que cette édition 96, c'est c'était du jamais vu, c'était du tu as vécu hein, de près,
oui,
cette édition.
Bah, j'étais comme Pierre-Yves le fait aujourd'hui, j'ai suivi la course, mais moi je l'ai suivi au PC Course, rue de la Grande Armée à Paris, ouais. et je l'ai suivi, mais et tu sais, et pourtant c'est pas les reportages les plus excitants quand t'es à l'intérieur d'un bâtiment, mais j'ai vécu des moments dingues cette année-là, parce que on était dans le PC Course de Philippe Janteau. C'est l'année donc des sauvetages incroyables de Raphaël Dinelli, Tony Bullimore. La France entière était à l'écoute de ce qui se passait. On était dans l'attente de nouvelles de ces deux garçons, Dinelli, dont le bateau s'était renversé, qui était accroché à la dérive de son bateau, le bateau qui coulait petit à petit. Il était dans des vagues énormes, et on avait les avions de la marine australienne qui venaient le survoler et qui montraient cette image. Et les bateaux australiens arrivaient petit à petit vers lui. Et puis il a été sauvé. Et puis quelques jours plus tard, il y a eu un autre garçon qui s'est renversé. Alors lui, son bateau s'est renversé, on n'a plus une nouvelle. C'était l'Anglais Bullimore. En fait, il était caché sous le bateau dans une poche d'air, et il a attendu que les bateaux arrivent à sa hauteur et quasiment tapent à la coque pour voir ressortir un petit bonhomme de dessous son bateau. Et c'est là qu'on a su qu'il était vivant. Autrement, il n'y avait aucune preuve du fait qu'ils sont encore en vie. Ça a été des moments incroyables, des moments de joie à l'intérieur du PC Course lorsque Janteau a eu la nouvelle. C'est bon, Tony vient de sortir du... Il est vivant, tout va bien. Dinelli a été récupéré. C'est incroyable. Ça faisait la une de tous les journaux, de toutes les radios, de toutes les télés. Je pense que c'est vraiment lors de cette édition que le Vendée Globe a acquis une dimension nationale.
Et puis il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc
il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais en revanche, on écoutait la radio et la télé.
Et il y avait l'imaginaire, et c'est ce qui a fait la grande aventure et la grande légende.
On a eu quelques images, mais on n'avait pas beaucoup d'images avant qu'ils arrivent sur
Sébastien Simon. La question est peut-être maladroite, mais est-ce que c'est par exemple cette édition 96 ou d'autres, à un moment donné, cette aventure hallucinante et ces sauvetages qui t'ont donné envie bien de le faire toi aussi.
T'es jeune, hein.
Bien sûr.
J'avais 6 ans en 96. Oui, donc,
tu as revu des images.
Il regardait la télé quand même.
Oui, bien sûr, j'ai plein d'images qui me restent en tête. Évidemment, le sauvetage de Jean Le Cam par Vincent Rioux et autres. C'est plein de belles aventures. Et après, toutes ces histoires en 96 et autres, et les premiers Vendée Globe, c'est l'histoire qu'on m'a raconté quand j'étais tout jeune. Forcément, et en plus en tant que Vendéen, je suis quand même un peu un enfant du pays. J'ai vu cette course grandir depuis que je suis tout petit, puisqu'elle a 35 ans, j'en ai 34. Donc j'ai suivi ça même avec mes enseignants à l'école depuis mon plus jeune âge. Donc forcément, voilà, j'en garde énormément de souvenirs, et c'est forcément ça qui m'a fait rêver, qui m'a un jour donné envie de participer à cette course.
Je sais que vous avez des questions pour Sébastien Simon. J'en ai une pour Franck Hamas, notre consultant, une des légendes françaises de la voile, évidemment. Franck, on est souvent assez surpris de se dire, quand on regarde évidemment tous tes exploits, que tu n'as pas fait le Vendée Globe. Est-ce que c'est un regret ou pas du tout?
C'est un regret parce que j'ai envie de le faire la prochaine fois. Donc là, je cherche les moyens de le faire. Donc,
c'est pas fini.
Et pour l'instant, j'ai eu plein d'occasions de faire les tours du monde différemment, en multicoque ou en équipage, ce qui n'est pas le Vendée Globe, puisque le Vendée Globe, c'est en monocoque et en solitaire. Et voilà, il y a plein de façons de faire des courses au large, il y a plein de façons de faire des tours du monde encore. Et le Vendée Globe, c'est la légende de la, maintenant, l'épreuve de légende de la voile française grâce à toutes ces histoires et l'engouement du public. C'est vrai que, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'envie de la part des skippers. Il y a aussi beaucoup d'envie de la part des sponsors qui viennent permettre aux skippers de partir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de concurrents. Aujourd'hui, il y a 15 bateaux neufs quand même sur le ponton au départ de ce Vendée Globe. C'est un record. Donc on voit la dynamique de cette course.
Franck, on dit qu'un coureur cycliste n'est pas un vrai coureur avant qu'il ait terminé un Tour de France. Qu'est-ce qu'il en est pour un marin? Il devient un vrai marin lorsqu'il a vu le Cap Horn ou lorsqu'il a fait le Vendée Globe?
Très difficile à dire. Il y a des grands marins. Je pense à Laurent Bourgnon qui a également jamais fait le Vendée Globe et qui a gagné des Routes du Rhum. Il y a d'autres épreuves. Alors je ne sais pas comment qualifier le Vendée Globe par rapport au Tour de France. mais bon, Seb et moi, on aime beaucoup le vélo, donc on réfléchit à participer au Tour de France plutôt.
Ah, d'accord.
j'ai une question.
Philippe Saint-André.
Combien il y a de femmes sur le Vendée Globe cette année?
6.
Et moi, j'ai une question. Comment on prépare un Vendée Globe?
Ça, c'est pour Sébastien Simon.
Ouais,
alors.
Pour Sébastien Simon, ouais.
Il y a sûrement plusieurs façons, mais aujourd'hui c'est un sport d'équipe puisque effectivement on est en solitaire à partir du moment où la ligne de départ est franchie. Mais avant c'est quand même une équipe entre 9 et 20 personnes pour les plus grosses teams en permanence pour préparer les bateaux qui deviennent ultra technologiques. Et puis ensuite c'est des courses qualificatives. Il y a plusieurs transats hein, qu'on connaît bien. Il y a la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, qui sont très très connues. Aujourd'hui il y a d'autres épreuves comme The Ocean Race qui sont des courses autour du monde ou autour de l'Europe en équipage et par escale.
La question de Fred, c'était plus comment on se prépare personnellement.
Personnellement,
on va dormir par tranche de 2 heures maximale.
C'est ce fait de dormir très peu, de manger à des heures irrégulières, d'être toujours sur le qui-vive pendant 3 mois.
Non, absolument pas. Ouais. Ça, c'est une bonne idée reçue. Mais non, au contraire, je vais essayer de dormir le plus possible. Je vais essayer de manger normalement et le plus possible aussi.
C'est difficile de se préparer au quart, j'imagine. Dans l'écart, quand Anthony, on dort 15 minutes, tout ça, ou c'est difficile de le programmer, de se préparer.
C'est aussi pour ça que.
On fait un jour en boîte de nuit juste avant le départ et on se fait ses quarts de nuit.
3e mi-temps, vous allez voir les mecs.
Non, mais c'est la réalité, on ne peut pas s'y préparer véritablement.
Non, c'est pour ça que c'est un sport d'expérience aussi, quand même, la course au large. On apprend à se connaître. En plus, chaque personne est un peu différente. Donc. Moi, je sais que je vais plutôt avoir besoin d'aller dormir en fin de nuit. Et puis après, effectivement, c'est des petites siestes où on va dormir un peu tout au long de la journée. Le bateau, il s'arrête pas, hein, clairement. Donc, il faut continuer de faire avancer le bateau le plus vite possible. Donc, il faut réussir à dormir pas trop longtemps pour être toujours prêt à re-régler le bateau, à manœuvrer ou quoi que ce soit. Et après, aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros côté mental qui joue quand même dans la course au large, que les bateaux deviennent très très durs. Et comme tous les grands sportifs qui font les Jeux Olympiques ou qui font le Tour de France ou même des rugbyman, voilà, je pense que l'aspect mental devient de plus en plus important pour gérer ses émotions, pour gérer des coups durs, parce que c'est aussi un sport mécanique, hein, et on est tout seul pour réparer le bateau s'il y a une petite avarie. Donc, voilà, c'est beaucoup de choses à prévoir pour pouvoir prétendre à prendre le départ du Vendée Globe.
Sébastien Simon, skipper de l'IMOCA Groupe Dubreuil, est avec nous. Il va participer dès demain à son deuxième Vendée Globe. Franck Hamas également, notre consultant RMC. Christophe Fessieux.
Une question concernant la technologie que vous embarquez à bord. Aujourd'hui, on dit que tous les marins ont Starlink, c'est-à-dire que vous pouvez quasiment regarder toutes les télés du monde entier, que vous avez l'IA qui est également installée sur le bateau. Et pourtant, le routage et l'assistance au routage est interdite. Est-ce qu'on n'est pas un peu, quelque peu, dans l'hypocrisie dans cette histoire? Est-ce que le Vendée ne doit pas s'adapter, en quelque sorte, finalement, à la technologie aujourd'hui, parce que certains ont été accusés d'avoir triché, d'avoir reçu des infos concernant le routage météo. Je voudrais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, abandonner cette idée, sachant que aujourd'hui, avec la technologie, vous pouvez avoir tout avoir en un instant, quoi?
Sébastien et Franck vont répondre à cette question.
Ouais, bien sûr. C'est vrai que Starlink aujourd'hui qui est bien présent, qui est de l'internet au débit, hein, je pense que ça capte même presque mieux que chez moi. Donc ce qui est assez incroyable, on est connecté même sur Netflix si on en a envie. Bon, c'est pas le but, hein, je pense que j'aurais bien d'autres choses à faire, mais je pense que l'ADN de la course reste quand même conservé, c'est-à-dire que ça reste quand même une aventure, certes qui est différente parce que parce que il y a des moyens de communication beaucoup plus développés, mais il faut s'imaginer que les bateaux, la vie à bord est quand même beaucoup beaucoup plus dure aujourd'hui. C'est des bateaux beaucoup plus technologiques aussi. On a le droit, c'est bien une course sans assistance. On a le droit effectivement d'être en contact avec notre équipe pour réparer des petits points techniques avec le matériel qu'on a à bord pour qu'ils puissent nous aider ou nous envoyer un protocole. Ça, c'est autorisé. Par contre, ce qui est interdit, c'est d'avoir une assistance ou un guidage sur la trajectoire, sur la vitesse, sur notre position. Ça, on doit se débrouiller tout seul avec les moyens qu'on a à bord. Alors, on a exactement les mêmes moyens qu'à terre aujourd'hui, mais on doit être seul à prendre cette décision, à faire nos simulations, à voilà. Et ça... Ça, ça influe vraiment sur le sportif et la trajectoire. Et ça, c'est pour le coup interdit d'être aidé.
Comment on peut vraiment vérifier ça, Sébastien, sachant que vous échangez par mail ou par SMS avec votre équipe à terre? C'est-à-dire, c'est impossible de surveiller. Vous pouvez même vous communiquer avec des codes quelque part. Donc, est-ce que c'est pas hypocrite cette histoire?
Ils voient le mal partout.
Mais non, mais
la question piège.
Il faut pas voir le mal partout. Ouais. Effectivement, c'est sur l'honneur, et j'espère que les marins ont un vrai honneur.
Le sens de l'honneur.
J'en suis persuadé. Il y a des courses, effectivement, où tout échange de données ou de messages ou de voix est échangé à travers un serveur. Donc l'Ocean Race permet d'avoir un contrôle de ces échanges. Mm-hmm. Ce n'est pas encore le cas sur le Vendée Globe, mais ça pourra le devenir. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'histoires d'assistance interdite qui a été vraiment élaborée. Ouais, il y en a eu, mais ça a pas, finalement, ça a mené nulle part. Donc, on peut faire confiance au skipper. Et moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a beaucoup de technologies à bord et ça complexifie beaucoup le métier de marin, parce que on se doit de maîtriser toute cette technologie, voire de la réparer par moment. Et c'était pas le cas il y a 40 ans. On avait des choses beaucoup plus archaïques. Mais donc, c'était plus simple de monter sur un bateau et partir être performant. Aujourd'hui, si on utilise mal les softs, les logiciels que l'on a à bord, et si on répare mal notre pilote automatique qui est extrêmement élaboré, si on le règle mal, voilà, il y a beaucoup plus de choses à faire et de maîtrise à avoir que de compétences à avoir qu'il y a une dizaine d'années.
Franck Camas, notre consultant, et Sébastien Simon étaient avec nous dans les grandes gueules du sport. Juste Sébastien, on va suivre dans les GG vraiment précisément ton aventure. Le record, c'est Armel Lecléa, 74 jours, 3 heures, 35 minutes. Tu vas le battre ou pas?
Largement. Il date de 2016, ce record. Alors voilà. Évidemment, ça dépend de la météo, mais je pense qu'on a les bateaux pour battre ce record. Évidemment, à condition météo égale, c'est sûr. Maintenant, moi, je sais pas, je vais déjà essayer d'aller au bout cette fois. La dernière fois, j'avais failli couler dans l'océan Indien. Là, je vais essayer de franchir la ligne d'arrivée, rentrer à la maison avec le bateau. Et on verra, je pense que le bateau a déjà fait ses preuves. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Et puis, on verra ce que ça donne comme résultat. Mais je reste aussi un compétiteur, donc je me satisferai pas d'un milieu de tableau, très probablement, même si aujourd'hui, je me mets pas de pression là-dessus.
Tous nos voeux de réussite, Sébastien. Vraiment, bonne aventure, belle aventure, bon Vendée Globe. Franck, on te retrouve demain, évidemment, dans les GG et tout au long de la semaine.
Ouais, Franck, fais attention à Pierre-Yves demain sur le bateau, sur la navette, parce que
je vais l'accrocher. Il paraît qu'il n'y a pas trop de vent demain. Heureusement, ça va pas être tout
en
spectacle.
Merci pile d'avoir été avec nous, Pierre-Yves Leroux, que l'on retrouve évidemment sur RMC toute l'après-midi et toute la journée de demain. Allez, on se retrouve dans quelques instants. C'est à vous de jouer, les auditeurs. Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire en face. Et il y a du monde ce matin qui se bouscule au standard. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48 de retour dans les grandes gueules du sport pour la dernière ligne droite des GG avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss et Philippe Saint-André ce matin. Alors les copains, j'ai une petite annonce à vous faire. On a eu un petit problème de standard là. On avait du monde pourtant qui voulait débattre avec vous, et quelque part c'est un peu la censure parce que justement les lignes ne fonctionnent pas, donc on ne va pas pouvoir avoir des auditeurs qui pourtant étaient contre vous. Alors je vous propose deux choix. Oui. Soit je vous lis quelques commentaires sur les réseaux sociaux et vous réagissez, soit on fait un petit débat caché rapidement.
Débat caché,
tout le monde. Débat caché. Ok, cachez votre joie, ça vous plaît pas.
Ça me.
Ok.
Alors, non, mais il a envie d'en découdre avec les auditeurs qui sont tombés à bras raccourcis sur Denis quand même.
À bras raccourcis.
À bras raccourcis. Hein, dis-le.
C'est un personnage de série.
Oui, c'est un personnage de série.
C'est énorme.
Alors les copains, il est 11h49. L'instant est solennel, l'instant est important. C'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre sur une information, oh non pas cruciale, extrêmement cruciale. Il va falloir réagir avec le cœur, c'est léger, ça passe tout seul, c'est tranquille. Le guet-apens du jour, le débat caché, votre débat caché, c'est ça.
Faut tout donner. Allez, Monique Louvel, vice-championne olympique à Rio et qui espère monter sur le podium. Elle va monter sur le podium. Et de quelle couleur sera le métal?
Elle la voit au loin.
Un peu d'espoir, mais elle la voit, mais elle est loin. Elle est loin et elle a les cannes. Elle a les cannes, Michel Goulias. Elle ne lâche rien, évidemment. La Hongroise, elle jette un petit coup d'œil sur sa gauche. Elle voit qu'elle est loin devant. Qu'elle est loin devant. Elodie Clouvel.
Elle tire sa course,
Clouvel.
La Hongroise, ouais. Elle n'est pas dans le rouge.
Elodie a compris, je pense. Ouais, Elodie a compris que c'était terminé pour le titre et maintenant elle va surveiller la troisième, mais qui est loin.
Ouais, il faut la médaille d'argent.
Elle va pouvoir savourer cette médaille d'argent.
Oh oui, elle va pouvoir savourer. Alors là, vous êtes dans le noir total. Mais pourquoi il nous passe
du
cet extrait?
Pentathlon moderne.
Eh bien, sachez que c'est une information qui peut prêter à sourire, mais c'est très sérieux. Lundi, donc dans deux jours, quatre chevaux de la garde républicaine, dont celui monté par Elodie Clouvel, médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Paris, vont recevoir la médaille de bronze de la défense nationale. Une distinction prestigieuse qui récompense les services honorables rendus par les militaires. C'est la première fois que des chevaux seront décorés. C'était déjà arrivé pour des chiens ou même des pigeons pendant la Première Guerre mondiale. Des chevaux décorés, est-ce ridicule? Oui ou non? Denis Charvet.
Non.
Fred Weiss.
Oui.
Philippe Saint-André.
Non.
Christophe Cessieux.
C'est déjà arrivé.
Non, oui, mais est-ce que c'est ridicule ou pas? Après que tu sortiras la science.
T'en fous.
Okay. Bon, merci
ouais,
Christophe.
Non, mais qu'est-ce que. Oui, bah, c'est bien, ouais, c'est bien pour eux. Mais ça va rien leur faire.
En fait, ils ont accompli ces grandes performances sans se rendre compte qu'ils défendaient une patrie.
Qu'est-ce que c'est?
Ah, parce que tu penses qu'ils ont reconnu le drapeau en disant ça c'est le drapeau français, ça c'est le.
C'est la théorie de Pierre Dorian. Il dit est-ce qu'un cheval qui gagne le Grand Prix d'Amérique, est-ce que le.
Non, je pense qu'il est juste content.
Qu'il a gagné.
Je pense qu'il a fait son travail, il est super satisfait d'avoir fait son travail. Je suis pas certain qu'il se reconnaisse dans l'État français en fait.
Pierre Durand, donc, quand il a gagné son titre olympique avec Japlou, il n'y avait rien de prévu pour Japlou. Et donc, en descendant du podium, il est allé accrocher sa médaille autour du cou de Japlou. Et il dit, il aurait sans doute préféré une carotte. Parce qu'il n'y avait même pas une carotte prévue pour Japlou, quoi, tu vois.
Ouais, mais c'est un duo, c'est un couple.
Mais oui.
C'est un duo. La médaille, il la met où?
Alors ça, je n'ai pas encore les précisions. Ça va sur la crinière, sur le corps. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette information, alors, les copains?
Je vais m'endormir moins conce.
Ok.
Non, mais évidemment qu'ils sont pas. Enfin, je crois pas que un cheval soit conscient de sa performance par rapport à une compétition comme les JO. Mais après, on récompense quoi? Le règne animal? Sûrement, enfin, le côté les animaux, ils servent à quelque chose. Ou alors, si on
donne-leur un truc,
c'est symbolique.
C'est symbolique.
Mais non,
mais
c'est
quelque chose qui lui plaît.
Une carotte en or.
Mais quelque chose à manger, quelque chose à boire.
Mais non, mais à partir du moment où.
J'en sais rien, mais qu'est-ce qu'ils en foutent d'avoir une
médaille? À partir du moment où ce sport est lié à l'animal, t'es obligé de le récompenser, je pense.
Oui, mais avec une récompense
qui correspond à l'animal.
Qui peut lui faire plaisir.
C'est quoi l'intérêt pour le cheval d'en faire une médaille?
Un psychologue animal pour arriver à savoir.
Mais non, mais c'est symbolique, comme tu le dis.
Il y a des chiens d'avalanche, des sauveteurs, des chiens, dans les tremblements de terre aussi qui ont été décorés.
Bien sûr. Je parlais de la Première Guerre mondiale, les pigeons, les chiens ont été décorés, mais les chevaux, c'est une grande première.
Je sais pas si Laïka, tu sais, elle est décédée malheureusement, ça a été le premier animal à aller dans l'espace. Elle était dans une fusée russe avant qu'on envoie Gagarine. Malheureusement, elle est décédée là-haut, mais il me semble qu'elle a aussi été, elle a reçu une récompense, je sais
pas. À titre posthume, alors peut-être.
Ouais, à titre posthume,
Okay.
Alors déjà, durant sa vie, je suis pas sûr que ça l'intéresse, mais alors là, c'est impossible.
C'est vrai que cette information prête à sourire, mais on parle de la conscience, évidemment, animale, ça c'est une certitude.
Mais, oui.
Mais aussi la conscience pour les chevaux si proches de leurs cavaliers qui travaillent extrêmement dur, de ressentir les sensations, les vibrations.
Oui, mais quelque chose qui correspond à l'animal. Encore une fois, je pense pas qu'une médaille puisse l'intéresser, mais par contre, quelque chose qui lui plaise vraiment. J'ai pas une journée de spa exprès pour de massage pour le cheval. Je sais
non,
pas,
mais, non, mais moi, je pense quand même que dans une compétition, un homme, enfin, avec un animal, ils sont profondément liés. Je pense que l'un sans l'autre, ça peut pas fonctionner. Donc. C'est vrai que la récompense, elle est pour les deux. C'est un duo qui est...
Oui, mais pas alors, forcément la
attends,
même récompense.
Je pousse le vice plus loin. Alors, il faudrait plus deux médailles d'or.
Oui, mais pourquoi pas.
Non, mais
si tu vas de... dans la symbolique, à ce moment-là, tu remets deux médailles d'or. Ça revient au même.
Oui, ça revient au même. Mais tu décores et au moins, c'est sur le podium. Mais sur le podium. Je trouve qu'il y a quelque chose.
Et que Pierre Durand l'a fait pour Chapeloud, et je trouve que c'était plutôt brillant, intelligent de sa part.
C'est vrai que ça devrait être sur le podium, je suis d'accord avec toi.
Ok, ouais. Bon, bah, on a lancé une idée. Hein. Évidemment, c'est pas le débat du siècle, mais je trouvais ça sympa dans un débat
bien.
Caché.
Franchement, c'est bien. Ça doit vraiment sérieusement ennuyer un cheval de devoir monter sur un podium. Quoi. Il est mieux prêt à monter. Il faut aussi se mettre. Là, on raisonne en tant qu'humain par rapport aux animaux. Je trouve ça ridicule.
Ah bon ?
Eh ben voilà, t'as répondu au débat.
Paris,
il faut que je réfléchisse, moi.
Non, Brigitte Bardot serait pas content de ton temps de toi.
Merci
mais
beaucoup.
Trouve-lui une récompense en rapport avec sa psyché, quoi.
Je suis d'accord avec Christophe pour une fois.
Ouais. Merci Christophe, une merci Fred. Merci.
Non, là quand même.
On avait dit le rugby se terminait. Oh non, il se bat.
Excellent,
Philippe. Oui,
ah non,
je sais pas. Merci beaucoup, Denis Charvet, ce soir 21h10.
Par contre, aujourd'hui, je ne reste pas pour les paris.
France-Japon évidemment et ce soir aussi de la Ligue 1 avec Angers-Paris Saint-Germain. Ça va être une journée extraordinaire aussi tournée vers le Vendée Globe. On sera là demain à partir de 9h. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite les paris RMC. On vous embrasse. Passez une très très belle journée.